On est ici dans la partie réseau et on va parler de comment on peut concevoir et implémenter des connexions hybrides, c'est-à-dire comment interconnecter en gros le data center, donc votre infrastructure, avec des réseaux virtuels qui ont été créés dans Azure.
Eh bien, effectivement, les options des connexions au réseau virtuel. On a vu l'accès depuis l'extérieur. Maintenant, voyons l'accès qui est disponible pour plutôt les administrateurs et puis pour l'interconnexion du data center. Pour l'administrateur, l'utilisation, on va dire, de l'admin qui veut aller se connecter sur un VNet Azure pour faire des petites opérations de maintenance, se connecter en TS sur les serveurs. Pour bricoler dessus, on a une connexion, ce qu'on appelle point un site, P2S, point un site VPN.
Donc un VPN nomade en fait, hein, tout simplement.
Tel qu'on le connaît dans les chaumières depuis déjà pas mal de temps. Et puis le VPN site à site, qui est l'option de IPsec sur Internet. Ou alors l'option ExpressRoute pour plus de fiabilité, de disponibilité. On en rediscutera.
Juste après.
Yes. Première option, le peer, le point to site, VPN. À quoi ça correspond? On a
Bah,
dit, hein.
tu l'as dit, c'est un VPN nomade, hein, donc en gros, j'ai un poste client qui se connecte et qui virtuellement va se retrouver avec une adresse IP lui permettant de parler avec les machines virtuelles qui sont hébergées dans les différents VNets d'Azure. Donc, c'est une liaison avec un des réseaux, un des VNets qu'on aura créé au préalable dans Azure. Ça sert pour une connexion ponctuelle de machine, c'est pas du permanent en général, c'est très rare qu'on ait une connexion permanente sur un PC à destination d'un VPN. Et donc, pour pouvoir utiliser tout ça, en fait, on va utiliser les assistants d'Azure pour créer en fait un petit package VPN qui va contenir l'ensemble des paramètres et les configurer dans un poste Windows. Alors, précisons, c'est un poste, on va dire, Windows Vista Service Pack un minimum. La technologie de tunnel VPN est utilisée derrière étant du SSTP, du Secure Socket Tunneling Protocol. En gros, on va dire un VPN SSL, mais très orienté Windows quand même, parce que c'est à partir de Windows Vista Service Pack 1 qu'on l'a mis. Donc, précision important, le client est compatible Windows avec le VPN de Windows, n'est pas compatible avec d'autres OS, là encore, en cas de question, attention. Le package vous contient également un certificat racine pour pouvoir effectivement reconnaître derrière la passerelle d'Azure. Et donc, ça va installer également un certificat côté client. Donc, l'authentification sera faite comme ça par certificat, mais ça, c'est distribué par vous dans le package, par
Ouais,
Azure dans
ça
le
c'est le
package.
job, hein. D'ailleurs, quand on configure ce VPN, on va aller
Ouais.
dans la partie certificat qu'on voyait tout à l'heure dans l'interface, on va donner le certificat racine de l'entreprise qui va permettre aux clients qui vont se connecter à l'infrastructure de venir être authentifiés par mécanisme de certificat.
Point important, c'est que ça va créer également un subnet complémentaire dans le VNet d'Azure, qui sera le subnet d'accueil, entre guillemets, de ces clients virtuels. Un subnet qui offrira au maximum 254,
4.
ouais, non pas ça 256, mais 254 connexions possibles pour les utilisateurs nomades.
Donc, c'est vraiment pour l'admin qui va faire des opérations ponctuelles.
L'admin ou des utilisateurs nomades qui ont des besoins où l'infrastructure est déplacée complètement sur Azure, mais ce n'est pas une très grosse structure. Donc attention sur les questions, sur la taille également, nombre de personnes, on est limité.
Absolument. Configuration du VPN point un site. Alors, c'est relativement simple comme expérience. On va ici dans notre configuration des réseaux. Alors, je vais juste les retrouver. Network. MVA net. Je vais prendre certificat. Je dois ici uploader un certificat. Donc je vais dans la partie configuration, point un site. Il nous demande d'ajouter l'espace d'adressage pour cet environnement. Donc on va mettre un espace d'adressage qui n'est pas en conflit, 192.168.0.0/24. On ajoute l'espace d'adressage. Là, il nous demande d'ajouter un sous-réseau pour la passerelle. Puisque évidemment, quand on va créer ça, il va falloir avoir une passerelle VPN qui va être créée. Donc on lui demande un subnet. Donc on fait Add Gateway Subnet. On sauvegarde la configuration. Celui-là, j'en ai pas besoin. On sauvegarde la configuration. Et puis à partir de là, pour que ce soit effectif réellement, il faudra faire plusieurs choses. Parmi ces plusieurs choses, on le mentionnait, ajouter un certificat dans la partie configuration. Ce certificat, c'est un certificat d'une autorité racine d'entreprise qui est celle qui aura délivré les certificats à vos postes clients. Et puis, si on revient dans la partie dashboard, une fois que les modifications étaient opérationnelles, on voit ici que, par exemple, la gateway was not created. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a ça, Stanislas?
Il faut attendre.
Il faut attendre un petit peu, effectivement. Une fois qu'on aura créé sur le bouton Create Gateway, ça va prendre environ 15 minutes à créer la passerelle. Donc si je fais ça, effectivement,
Allez,
on a un petit peu de
mets en
temps.
30 et comme ça on est tranquille. 15, c'est les délais peuvent varier, mais il y a effectivement le provisioning de machines virtuelles derrière.
Alors là, il est, tu vois, en train de faire du Creating Gateway. Et puis, effectivement, à partir de ce petit temps qu'on vient d'indiquer, on aura une adresse IP qui va apparaître ici, parce qu'en fait, il crée quoi? Il crée des VM en mode passe, donc deux VM pour avoir de la haute disponibilité, et qui vont être les VM qui vont permettre de lier comme ça les utilisateurs nomades à mon client, à mon réseau virtuel. Ce sera évidemment pas opérationnel avant que j'ai pris la partie certificat. On peut ici en uploader un. Je dois avoir ça quelque part, je pense, hein. Alors, si on va infra-démo, je dois avoir ici un ITCAMTEST test route CA. Je spécifie mon autorité racine. Il est en train de l'uploader et puis de vérifier sa configuration. Je valide. Et puis du coup, toutes les machines clients qui ont un certificat qui ont été émis par mon ITCAMP route CA, et bien auront la possibilité de se connecter à mon VNet. Je reviens sur mon dashboard ici. C'est sans doute pas encore créé, mais j'aurai donc ici une vue. Une fois que ce sera créé, j'aurai également un petit lien ici qui va se positionner pour télécharger le Connectoid pour
Le
Windows.
fameux package, effectivement, qui permet de faire ça. D'accord.
Donc voilà à quoi ça correspond, la création d'un VNet pour de la configuration point .asit. Autre section importante, la connectivité site à site. Pierre angulaire de l'hybridation des mondes, hein, de l'interco entre mon data center et puis le monde d'Azure. Alors les briques technologiques qu'on utilise pour ça sont relativement standards, Stanislas.
Oui, parce que on va utiliser de l'IPsec, donc on a l'IPsec tout à fait classique. On va chiffrer les données en transit en AES 256, 256 bits. On est sous l'authentification à clé partagée, donc ça veut dire effectivement Azure va vous proposer une clé et vous allez la mettre dans votre passerelle VPN site à site. Il n'y a pas l'utilisation de certificat en authentification mutuelle. La montée en charge est possible. Alors notre passerelle supporte, tu m'arrêtes si je dis bêtises, à peu près 80 mégabits de bande passante, de
Exactement,
passerelle
alors,
standard.
passerelle standard, on a
Donc c'est-à-dire
l'habitude
celle qui est créée
d'avoir
telle que tu l'as créée comme ça.
ouais,
Il y
exactement.
en a une autre, une passerelle plus puissante.
Okay. Un petit peu plus cher, certes, hein, mais qui permet de mieux supporter la montée en charge. On va se dire aux environs des 200 et quelques mégabits par seconde. Si le besoin de débit, c'est vraiment le point qui nous bloque. Tolérance de panne, il est évidemment inclus dans cette solution, puisque on a CVM en mot de passe qui sont désignés. Évidemment, on ne va pas faire la haute disponibilité de votre data center pour vous, hein, donc ce sera à vous de déterminer votre serveur VPN à l'intérieur de votre data center pour qu'il soit hautement disponible. À noter, point architectural qui est important, il faut que la haute disponibilité soit assurée par une et une seule adresse IP. Donc vous allez utiliser HSRP, VRRP pour s'assurer de cette haute disponibilité. Mais il n'y a pas possibilité à Azure de dire tu prends telle première passerelle si ça marche, puis si ça ne marche pas, tu prends la deuxième. Ce sera à vous d'assurer la haute disponibilité sur une seule adresse IP, sur un seul point d'entrée public. Contrôle granulaire des coms, évidemment, hein, avec votre routeur, vous allez pouvoir définir comme ça les règles de filtrage que vous allez choisir. Attention, pas d'overlap de subnet, hein, donc si on a 192.168.0.0 d'un côté et 192.168.0.0 de l'autre, problème philosophique, hein, que les routeurs n'ont toujours pas résolu. Un problème de dualité des mondes, ça va pas marcher. Donc pas d'overlap de subnet qui est supporté. Choix philosophique également, support du routage statique ou du routage dynamique. On a la possibilité avec du routage dynamique de découvrir des routes du point de vue de votre infrastructure avec des protocoles comme BGP pour pouvoir mettre à jour comme ça automatiquement les routes et les communications en mode un petit peu haute disponibilité. On aura plutôt tendance à l'heure actuelle à choisir un mode de routage dynamique, c'est quand même beaucoup plus pratique. L'avantage du mode dynamique, c'est qu'on va aussi passer en mode IKEv2 pour l'authentification, qui permet une réauthentification plus rapide et puis utiliser moins de CPU pour la négociation des clés. Donc c'est un petit peu ce qu'on va utiliser maintenant, et on sait que sur un certain nombre d'équipements réseau, on aura la possibilité que faire de l'IKEv1. Protocole d'échange de clés, et donc dans ce cas-là on utilisera du routage statique puisque c'est les prérequis de la plateforme. On le disait, on est sur des choses très très standards hein, de l'industrie, de l'IPsec avec une encapsulation ESP qui passe à travers Internet en utilisant du chiffrement OS256. Donc c'est assez comparable avec, enfin c'est assez compatible avec tout ce qu'on peut trouver sur le marché. Si on regarde une connexion VPN site à site dans la configuration, de la même manière, on va retourner ici dans mon MVA net. Je vais aller dans la partie configuration. Et dans la partie configuration, de la même manière que j'ai créé tout à l'heure une connexion point à site, je vais connecter ici un emplacement site à site. Et là, dans cet emplacement site à site, c'est là que je vais devoir définir un réseau local. Alors qu'est-ce qu'on définit comme un réseau local dans mon environnement? Un réseau local, bah, c'est un réseau qui est le réseau de mon data center. Donc on va revenir un petit peu dans cette section ici. Si je suis dans la partie de local network, j'ai tout un ensemble de réseaux que j'ai définis. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai par exemple défini data center Élysée avec 192.168.2.0/24 et puis un point d'entrée public qui est 85.70.250.71. Ça, ça veut dire quoi? C'est une indication pour le routage d'Azure pour dire voilà, à l'intérieur du réseau MVA VNet, si tu veux discuter avec 192.168.2.0/24, alors tu dois envoyer les paquets à l'adresse IP du VPN à IPsec 85.70.250.71.
On parle bien de l'adresse publique de la passerelle VPN site à site qui est dans le data center du client.
Absolument. C'est de ça qu'on parle. Donc on retourne ici dans la partie Virtual Network, et puis normalement on devra avoir la possibilité de rajouter ce Data Center Élysée. Il ne me semble pas l'avoir mentionné ailleurs. Donc on va dans la partie Configuration, Connexion site à site, Data Center Élysée, je valide. Et ça en fait, qu'est-ce que ça va faire? Ben, il va mettre à jour les tables de routage de mon VNet, les appliquer à la passerelle IPsec également. Et puis tout ça va se provisionner gentiment à la vitesse de ma passerelle IPsec, ce qui prend un peu de temps, donc on va pas attendre jusqu'à la fin de l'opération, mais on aura une petite case additionnelle qui va apparaître ici et qui va nous mentionner, comme on peut le voir, qu'on a bien une connexion point à site, tu vois, là avec les petits cercles qui apparaissent. Et puis on a data centralisé qui représente une connexion site à site. Donc là, on voit que quand on a effectivement le petit espace blanc, bah, c'est que c'est pas connecté. Et puis si c'est bon, bah, c'est vert. Et puis les deux points sont connectés. Pour l'instant, comme il est en train de créer la passerelle, on ne le verra pas. Les caractéristiques techniques, on les énumère ici. On est sur de l'encapsulation ESP dans tous les cas, avec de l'IKE soit V1 soit V2 selon le mode de routage qu'on utilise, de la clé partagée dans tous les cas pour le mode site à site, et puis le certificat pour le mode point à site. Notons, point d'architecture important, que quand on va définir des connexions site à site, on a maximum par défaut 10 connexions site à site qui peuvent être définies par VNet. Si vous en voulez plus, n'hésitez pas à ouvrir un incident au support, ils sont très contents de vous en créer plus. Simplement une limite par défaut dans un VNet, mais qu'on peut dépasser sans aucun souci. Tableau de bord, voilà à quoi ça correspond quand c'est rempli, un petit peu plus rempli que dans mon environnement. On voit que j'ai effectivement ici l'adresse IP de la passerelle. Alors ça, cette adresse IP de la passerelle, c'est l'adresse IP qui sera présente dans Azure, de l'adresse IP de la passerelle Azure et que vous devrez spécifier dans votre data center. Réciproquement, vous devrez dire dans votre data center, si tu discutes avec 10.0.0/8, alors envoie ça vers l'adresse IP 137.135.128.218. On a aussi quelques exemples de scripts VPN ici qui sont utilisables. Nouveau scénario avec la passerelle site à site, on peut interconnecter à plusieurs data centers et plusieurs VNet jusqu'à 10 liaisons site à site IPsec. Alors pour interconnecter ces différents VNet dans Azure, la manipulation est un petit peu sioux, hein. Il faut prendre du fichier XML et modifier cette configuration du fichier XML. Donc c'est pour ça que c'est pas très évident, mais on vous donne ça pour référence. Il est assez vraisemblable que ça ne fasse pas partie des points qui soient évalués lors de la certification. Mais juste, on vous le donne pour référence. Donc, définition des VNet et des sites locaux. Exportation de la configuration XML des VNet de l'abonnement. On modifie la section Gateway pour ajouter le site distant. Ensuite, on réimporte, on modifie les clés partagées liées aux VNet au réseau local et on vérifie que tout ça est bien configuré. Alors, tout ça,
c'est bien.
C'est parfait. La seule problématique, c'est qu'un certain nombre de clients nous disent, bah oui, mais moi j'ai la passerelle Azure qui est hautement disponible, j'ai la passerelle de mon data center qui est hautement disponible, mais entre les deux, il n'y a rien qui est hautement disponible. L'Internet, il n'y a rien qui me garantisse sa disponibilité. Et puis il y a d'autres clients qui nous disent aussi, ben, effectivement, AES, c'est bien, mais j'ai pas envie que mes données circulent sur Internet, même si elles sont chiffrées.
Oui, enfin, c'est pas forcément toujours le problème de confidentialité, c'est plus aussi le fait qu'il n'y a aucune garantie de service. Internet, c'est Internet, c'est-à-dire que ça peut bien marcher, ça peut pas très bien marcher. C'est souvent en fait le problème de débit et de niveau de service attendu, de performance, qui fait qu'on bascule d'un choix à un autre.
Effectivement, le troisième argument est le même que le premier. Tu fais bien de le préciser, Stanislas.
Et c'est pour ça que j'ai fait le point dessus, parce que ça peut être important pour la certification.
Absolument. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait? On va utiliser ExpressRoute. ExpressRoute, c'est utiliser des mécaniques qu'on a habituellement dans notre data center pour la haute disponibilité des réseaux. Vraisemblablement, si vous êtes une organisation où il y a plusieurs sites réseau, vous avez déjà affaire à Orange ou à un autre fournisseur Internet pour utiliser avec du MPLS une liaison entre ces différents sites. Et bien, avec ExpressRoute, qu'est-ce qu'on va faire? On va simplement faire la même chose. On va ajouter Azure en tant que site supplémentaire de votre infrastructure. Le mode MPLS, c'est, on va dire, le mode le plus simple, le plus accessible. Ça va nous permettre d'aller jusqu'à 1 gigabit par seconde, globalement. C'est ce qu'on vous fournit comme service. Et puis, si vous dites, ouais, c'est bien 1 gigabit par seconde, c'est bien votre histoire de MPLS, mais moi, j'ai besoin de encore plus gros. Pour ça, on utilise le mode peering, le mode point d'échange. Donc, vous venez avec votre fibre dans une cage d'un point d'échange. Vous venez avec le matériel qui est nécessaire pour ça. On est jusqu'à 10 gigabits par seconde. Donc là, ça commence à être très sérieux en matière de bande passante. Et puis, petit plus de la maison Microsoft, quand on utilise ExpressRoute pour lier avec Azure son réseau de data center, on a également maintenant Office 365 qui passe par ExpressRoute aussi.
Et Azure ImmoTap également. Mais ça ne fait pas partie des questions qu'on aura le jour J de l'examen.
Exactement. Alors, les facteurs décisifs pour se dire je passe par ExpressRoute ou je passe par du VPN IPsec, tu l'as mentionné, facteur coût, le facteur de la bande passante, de la garantie du service, et puis accessoirement, mais on l'entend quand même assez souvent, l'histoire de confidentialité, je ne veux pas par principe, même si c'est chiffré, que mes données passent par Internet.
Eh bien, se conclut ce troisième et dernier module de ce cours de révision, l'examen 70-533 dédié à la préparation de la certification, plutôt dans la partie réseau virtuel dans Azure. Donc, à retenir, Arnaud.
On crée des réseaux à l'intérieur desquels on crée des sous-réseaux, très vraisemblablement dans l'RFC 1918, beaucoup plus sage. On regarde la configuration d'un fichier XML. Regardez-y, c'est très très important avant d'aller à la certification. En matière de résolution de nom, soit votre propre serveur DNS, soit la résolution d'Azure pour des besoins très très spécifiques. On a la possibilité de réserver des adresses IP à l'intérieur des réseaux comme à l'extérieur, avec des adresses IP public qui vont nous être attribués.
On a effectivement le Traffic Manager qui permet de réenvoyer les requêtes soit vers différents cloud services, soit vers des VM, soit vers une infrastructure sur site. À noter et à retenir pour le Traffic Manager, c'est les trois modes de performance, donc les trois modes de paramétrage. Performance, c'est au plus près de l'utilisateur, pourtant. Run-robbing, c'est requête envoyée de manière équilibrée. Et le troisième, c'est le backup, failover. En cas de panne, effectivement, on switch. Donc ça, typiquement, ça, c'est vraiment des questions qui peuvent tomber sur l'Azure Traffic Manager. Internal Load Balancing, Load Balancer interne, configurable en PowerShell.
Les ACL et les Network Security Group pour définir des règles de filtrage inter-VM et inter-VNet.
Connexion
à mon VNet, du SSTP pour une liaison site à site, enfin une liaison point à site, pardon, et puis de l'IPsec pour une liaison site à site, donc c'est l'inverse de ce qui est écrit sur les slides, mais c'est pas très grave, et puis ExpressRoute pour une liaison hautement disponible et puis privée.
Se conclut ce cours dédié donc à la révision partie réseau pour l'examen, préparation de l'examen 70-533 côté infrastructure. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter ou sur nos blogs respectifs pour se former et s'informer.
N'hésitez pas à interagir avec nous, dièse cours MVA, pour nous dire super, je l'ai passé, merci, si la certification, si ces cours vous ont aidé.
Voilà. Si ces comptes ne sont pas aidés, ne nous appelez pas ou appelez Arnaud.
Hâte Arnaud Lheureux, n'hésitez pas. Il nous reste à vous souhaiter
bonne
chance, bonne journée et puis à très bientôt sur MVA pour d'autres cours.